Nous nous invitons bien sûr à prendre la parole et à poser toutes les questions que vous souhaitez poser, bien sûr à Sylvain Linarté, profiter de sa présence exceptionnelle, mais aussi aux autres membres de l'équipe qui sont ici dans la salle à votre disposition. On va faire circuler un petit micro. Madame, on va vous donner un micro. Vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez.
Hélène Châtelain, je voulais juste lui demander si elle avait écrit après, si elle avait écrit son récit ou si c'est d'oralité en oralité qu'elle nous le raconte depuis tellement longtemps maintenant.
Вы когда-нибудь записывали свои воспоминания или вы всегда устно рассказываете об этом?
Я устно рассказываю. C'est toujours de l'oral.
Это значит, что нету ни книги, ни тетрадки, которые вы потом, когда уже все это кончилось, вы не записали ничего.
Услышали, да?
Да, я учитель и живописью занимаюсь.
Нет. И вы, то есть никаких записей об этом времени вы сами не вели, нет. И потом не записывали
нет.
Ничего? То есть
нет.
Нет ни книги, ни дневника?
Нет. А многие написали. Уже есть такие книги в Латвии, но я нет.
Il y a d'autres personnes qui ont publié des livres, de mémoires ou de carnets, de journaux intimes. Donc, il y en a en Lettonie. Moi, je ne l'ai pas fait.
Peut-être juste ajouter que l'histoire de vie de Sylvain Linarté est racontée par Juliette Denis dans le livre Déporté en URSS, où on retrouve ce récit et aussi...
Марта объясняет, что ваш рассказ, он присутствует в книге.
Peut-être je peux
изложен Жюльет Дени.
Это уже.
Сильва a terminé son récit en disant qu'elle a pleuré au moment de la mort de Saline. C'était un enfant. Et alors je me demandais, à un moment, elle a dû rentrer à la maison. Qu'est-ce que sa mère, par contre, comment elle a trouvé sa mère? Qu'est-ce que sa mère lui a dit? Est-ce qu'elle a des souvenirs de ça?
Вот вы сказали, что когда Сталин умер, вы, как и все остальные, плакали. Но потом вы, наверное, вернулись к себе домой. Вот помните ли вы реакцию матери, что она сказала, как она сама себя вела?
Да, когда я вернулась домой, мама сказала, слава богу, наверное, нас теперь отпустят домой.
Je me souviens très bien, je suis rentrée chez moi, et ma mère m'a dit, Dieu merci, maintenant ils vont peut-être nous laisser partir chez nous.
Мне просто было страшно ее слов.
Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur.
Когда я вернулась в Латвию, тогда я поняла, что эта ситуация была другой, не так, как нас воспитывали в школе.
Ce n'est qu'en rentrant en Lettonie que j'ai compris que la réalité était différente et qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on nous enseignait à l'école.
Alain Blum aussi.
Non, moi j'ai beaucoup de questions, mais bon, je vais déjà en poser deux. D'une part, vous avez souligné que quand vous étiez rentré en Lettonie la deuxième fois, il y a un des directeurs d'école qui avait refusé l'orphelinat en disant, l'orphelinat, le foyer, pardon, en disant que vous étiez enfant d'ennemis soviétiques. Est-ce que ça a été fréquent en Lettonie qu'on vous rappelle ce passé et qu'on vous interdise l'accès à des endroits? Est-ce que vous avez beaucoup souffert de... Ensuite, et est-ce qu'à un moment, vous pensez que ce passé a disparu, c'est-à-dire qu'on a arrêté de vous le reprocher et est-ce que c'est arrivé tardivement, c'est-à-dire est-ce qu'il a fallu attendre l'indépendance de la Lettonie? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est, alors c'est en liaison avec la question d'Hélène Châtelain, vous êtes artiste, donc vous n'avez pas écrit, mais est-ce que vous pensez que dans toutes vos œuvres d'art, la présence de la Sibérie est très... Est-ce qu'il y a une présence de la Sibérie dans vos œuvres d'art? Bon, mais ça, c'est une question qui n'est peut-être pas...
вопроса. Да, два вопроса. Первый вопрос следующий. Вы упомянули, что когда вот вы второй раз уже вернулись в Латвию, там директор художественного училища, института вам запретил жить в общежитии. То есть таким образом он напомнил вам о вот этом прошлом. И как вы считаете, потом часто ли бывали такие ситуации, когда вам напоминали бы об этом прошлом, и оно бы продолжало влиять на вашу жизнь? И был ли в какой момент это прошлое перестало давить на вас? То есть только после 91-го года или раньше?
В принципе, до 91-го года, безусловно, я жила постоянно в страхе, что это где-то будет напомнено. Я хотела поехать в Канаду, мне тетя прислала 7 вызовов, меня не пускали.
Jusqu'à 91, j'avais toujours peur. Que ce passé allait ressurgir et peser encore sur moi. Par exemple, ma tante, qui vivait au Canada, elle m'a envoyé à 7 reprises une invitation pour que je puisse aller la voir là-bas et je n'ai pas pu le faire.
Вмешался директор и давали там гарантию, что я не останусь, вернусь через директора, уже следующего директора, не того, который мне не разрешал жить в общежитии. Я съездила в Канаду в 79 году. Это было событие для всех, не только для меня.
Pardon, donc il y a eu une erreur de traduction. Si Sylva a pu y aller en 79, c'était grâce à l'intervention d'un autre directeur de l'école de Beaux-Arts qui s'est porté en quelque sorte garant de son retour, de qu'elle n'allait pas rester au Canada. Et donc c'est ainsi qu'elle a pu y aller en 79 et ça a été un grand événement, pas uniquement pour elle, mais aussi pour tous ses proches.
И наша школа дружила со школой в Праге, и был обмен практикой, меня тоже не пускали.
Notre école de Beaux-Arts avait une collaboration avec une autre école à Prague. Donc il y avait un échange d'étudiants, d'enseignants. Moi, je ne pouvais pas m'y rendre.
После директор добился, что дали одного из горкома партии, который за мной будет ходить, следить, и тогда меня пустили.
Alors notre directeur a enfin obtenu que quelqu'un, un représentant du comité du parti de la ville, m'accompagne dans ce voyage à Prague. Et comme ça, comme il était tout le temps derrière moi, comme ça ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé aller là-bas.
А я вела себя правильнее всех.
И moi je suis la, j'étais alors la meilleure soviétique de tous.
Поскольку я боялась.
Parce que j'avais peur.
И когда уже в конце 80-х годов нашего директора школы хотели уволить с работы по политическим каким-то разным причинам, тогда один из пунктов был такой, что Линарте – это правая рука его, что она репрессированная и что она с директором работает дружно вместе.
Alors, quand à la fin des années 80, ils ont voulu limoger notre directeur, un des arguments, c'était que donc cette Sylva Linarte, elle travaille beaucoup avec lui, elle l'aide beaucoup, alors qu'elle vient d'une famille de réprimés. Peut-être je peux aussi évoquer un autre cas qui a eu lieu en Sibérie.
В Сибири к нам относились, в принципе, хорошо. Я никогда не говорю о том, что русские нас обижали, но отдельные случаи все же и там были, что в то время по правилам школьным нужно было начать урок с идейно-политического введения воспитания.
En Sibérie, on était plutôt bien reçus et je l'ai déjà dit, on n'était pas mal traités là-bas, mais il y avait quand même quelques cas, quelques situations, et notamment à l'école, les cours commençaient toujours par une sorte d'introduction idéologique.
Et учительница русского языка зашла в класс и сказала: «Дети, как вы думаете, почему их сослали?»
Et alors la prof de russe est entrée dans la classe et elle a posé la question à tous les enfants: selon vous, pourquoi ont-ils été déportés?
Один мальчик поднял руку и сказал: я знаю, они были фашисты.
Il y a un garçon qui a levé la main et a dit, moi je sais, c'est parce qu'ils étaient nazis.
Учительница ответила: «Правильно, Гена, садись, но их надо было не сослать, а расстрелять».
Et la prof a dit: «C'est tout à fait ça, très bien, assieds-toi, mais la seule chose, c'est qu'il suffisait pas de les déporter, il aurait fallu les fusiller».
Я очень переживала и не знала, почему так учительница поступила.
Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je ne comprenais pas pourquoi cette prof avait agi de sorte.
И когда в 82-м году я приехала в Сибирь со своей семьей, и там еще жила жена брата моей мамы, тетя.
И quand en 82 je suis venue en Sibérie avec toute ma famille, j'ai rencontré là-bas la femme du frère de ma mère, donc ma tante. Elle habitait toujours là-bas.
Et мы разговаривали на эту тему. Она жила в той же деревне. И я говорю, вот почему Ольга Владимировна так поступила, как ты думаешь, тетя? Она стала смеяться и мне объяснила, что в то время, ну, все женщины, сосланные латышки были, и там были молодые, красивые женщины, и ее муж был влюблен в одну латышку, она была очень ревнивая.
Alors, ma tante, qui est toujours restée vivre dans ce village en Sibérie, je lui ai demandé, mais selon toi, pourquoi cette Olga Vladimirovna a fait ça? Pourquoi elle a dit ça? Alors, elle a commencé à rire et elle m'a répondu, tu sais, à l'époque, toutes les femmes lettonnes qui se sont retrouvées dans le village, c'était des jeunes et belles femmes. Alors, le mari de cette Olga Vladimirovna, la prof de russe, était amoureux d'une lettonne et alors elle était jalouse.
Итак, я потерпела не по политическим причинам, а чисто частным.
Voilà, donc les raisons, finalement, n'étaient pas tellement politiques, mais plus personnelles.
И был еще второй вопрос Алана Блума. Вот вы художница, как вы считаете, Сибирь и сибирская красота, она как-то присутствует в ваших работах?
Я думаю, да, сибирская красота присутствует в моих работах и в моей специальности. В то время наши женщины, мамы сами делали столы, сами все из дерева делали, это были... натуральный материал. Украшали мы интерьеры свои на Пасху, на Рождество пихтой. И все эти зеленый цвет дерева белили стены только известью, а известь всегда белая. Сами женщины жгли известь.
Oui, tout à fait. Je pense que la beauté, donc en répondant à la deuxième question, je pense que la beauté de la Sibérie est présente dans mon travail d'artiste et aussi ça a influencé sans doute mon exercice du métier de designer puisque donc, j'ai grandi en Sibérie où ma mère et puis toutes les autres femmes fabriquaient tout elles-mêmes. Elles fabriquaient des chaises, des tables. Elles le faisaient à partir des matériaux naturels comme le bois. Et ils utilisaient aussi les matériaux naturels pour décorer avec les fleurs, avec les branches de sapin, ou encore elles fabriquaient elles-mêmes la chaux et elles peignaient les murs à la chaux.
À последнее время я специально на эту тему работаю. Воспоминания пейзажа, дома сибирские. У меня специальные работы такие на эту тему.
Et donc, tous ces matériaux naturels ont sans doute influencé mon travail. Et ces derniers temps, j'ai commencé à travailler de façon plus explicite sur ces souvenirs sibériens.
Я нарисовала один пейзаж. Сестра зашла, посмотрела, сразу говорит, черемшанка.
Alors, j'ai peint un tableau en faisant un пейзаж. Ma sœur, elle est entrée et elle a tout de suite dit, mais c'est bien le village de черемшанка.
Место, где жили.
Voilà, c'est l'endroit où on a habité.
Bonjour madame, je voulais d'abord vous dire combien j'étais impressionnée et bouleversée par vos paroles. Et je voulais savoir en fait si vous avez eu pendant une certaine période une incapacité à parler, à raconter tout ce que vous avez raconté voilà, aux chercheurs du CERSEC. Est-ce qu'il y a eu une période de silence? Est-ce que c'était la première fois que vous témoignez voilà. Ou alors est-ce que vous avez raconté... ces choses-là dès que vous êtes sortie des camps?
Прежде всего, я хотела бы сказать, что на меня очень большое впечатление произвел ваш рассказ. И я бы хотела узнать, был ли какой-то период, когда вы не могли об этом говорить? То есть был ли период молчания? Или вы стали об этом рассказывать сразу после того, как вы вернулись в Латвию?
Безусловно, говорить об этом не могли. Мы были очень-очень запуганные. И мы вообще с близкими людьми, мне оказалось, судьба свела с человеком, который меня привез последним вагоном из Сибири. И он был археолог. А я училась в Академии художеств, и мы вместе работали. Я была на практике. И мы на эту тему не разговаривали, мы не договорились. Я только после узнала, что он меня привез.
Bien sûr, on avait surtout très peur d'en parler. On n'en parlait pas et souvent même pas aux proches parce qu'on avait peur. Par exemple, j'ai été amenée à rencontrer la personne qui m'a amenée de la Sibérie. Donc pendant ce premier retour. C'était un archéologue, donc on a dû se rencontrer pour le travail et on n'en a pas du tout parlé. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il avait donc, il m'avait amené quand j'étais enfant de la Sibérie pendant le premier retour.
И теперь в этом году уже мне в университете в Даугавпилсе подарили одну книгу, которую я написал о жизни во время двух оккупаций в Латвии, книгу, и он пишет о своих соседях, о педагогах.
Et cette année, quelqu'un à l'université m'a offert un livre écrit par cette personne, par cet homme, archéologue, où il raconte son expérience des deux occupations de la Lettonie, où il parle beaucoup de ses collègues, de ses voisins.
Et на большое удивление, я нашла часть этой книги, где написано о моем отце. Когда мне подарили книгу, это не знали, и я впервые узнала о своем отце, о чем я ничего не знала.
Et alors, j'ai été très étonnée et surprise parce que j'ai trouvé dans ce livre tout un passage qui parlait de mon père. Alors, quand les gens m'offraient ce livre, ils ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose sur mon père dedans. Et moi, j'y ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas.
Написано было очень много хорошего, настолько хорошего, что я сочла своим долгом найти этого человека, который писал, и я достала его телефон и разговаривала с ним по телефону, поблагодарила его, и встретили, и договорились на это лето встречу с ним.
L'auteur de ce livre disait beaucoup de bien de mon père au point que j'ai voulu le retrouver et donc j'ai le trouvé, je l'ai appelé et on s'est mis d'accord pour se rencontrer cet été.
Ему 86 лет.
Il a 86 ans.
J'aurais voulu poser une question à Madame Linarté sur les langues, sur le russe et le letton. J'aurais voulu savoir comment elle a appris le russe en Sibérie, j'imagine, et est-ce que la langue avec sa mère est restée le letton ou cette situation a changé, et comment elle a vécu cette situation du point de vue langue à partir de son retour.
Мой вопрос касается языков русского и латышского. Где вы выучили русский язык, в Сибири или нет? И что произошло, когда потом вы вернулись в Латвию и сохранили ли вы латышский в Сибири или нет?
Русский и латышский язык у меня, ну, такой, как будто между собой соревновался. Первый язык там, наверное, по-латгальски с мамой как-то в детстве разговаривали, но мы так начали, когда начали учиться в школе, так редко встречались, поскольку мы жили вне дома, далеко, и только раз в четверть приходили домой. Значит, основной у меня русский язык. Я приехала в Латвию. Мне уже 19 лет, и я была вынуждена учить латышский язык, Но я знала, что я латышка, и я это сделала очень быстро, поскольку я знала, что мне он нужен обязательно.
Alors, il y avait comme une sorte de rivalité entre le russe et le letton. En fait, sans doute, quand j'étais petite et qu'on vivait encore en Lettonie, ma mère nous parlait dans sa langue. Mais après, quand on s'est retrouvés en Sibérie, on la voyait très, très rarement. On revenait à la maison une fois par trimestre. Donc, je me suis tout de suite mise au russe et j'ai surtout parlé le russe au point que quand, à l'âge de 19 ans, je me suis retrouvée en Lettonie, il a fallu que j'apprenne le letton, mais je l'ai fait je l'ai fait très rapidement parce que j'étais très motivée, j'avais envie de l'apprendre, je savais que j'en avais besoin.
В семье разговаривали по-латышски, а теперь на работе я еще немного работаю 2 дня в неделю, опять с русскими детьми, и я с удовольствием с ними говорю по-русски, чтобы язык сохранить.
Alors, donc, dans ma famille, au travail, on parlait en letton, mais aujourd'hui, je travaille toujours, donc je travaille 2 jours par semaine, et je suis à nouveau amenée à travailler avec des jeunes russes, et j'utilise avec beaucoup de plaisir le russe avec eux, parce que ça me permet de garder cette langue.
Алексей Легутский, я хотел бы развить немножко вопрос, заданный передо мной. Я как бы тоже родился в Сибири, из семьи депортированных. У меня дед из Западной Украины, поляк, а бабушка из вашего региона, из Даугавпилса, латышка. И она мне говорила, что то есть вот вы, когда были в 82-м году в Красноярске, в деревнях, вот меня интересует языковой вопрос. Сохранились ли деревни, в которых говорят на чисто латышском языке? Потому что мне бабушка когда-то говорила, что они были депортированы в регион в Читинскую область, часть семьи в Амурскую область. И она туда ездила позже и говорила, что до сих пор сохранились деревни, где говорят еще на том латышском языке до советского периода. Правда ли это?
Слышали? Да?
Нет, да, скажите. Да.
Alors, moi aussi, je suis née en Sibérie. Mon père, dans une famille de déportés, mon père a été déporté.
Paruski.
Поляк из Западной Украины.
Значит, он рассказывает о том, что его семья тоже из Сибири, да, и вот его бабушка рассказывала, что до последнего времени там были семьи, где целые деревни говорили, например, на латышском, причем на том латышском, который еще использовался до советской власти в Латвии. Вот вы, например, когда вы ездили туда в 82-м году, вы с таким сталкивались?
Нет. Я только знаю по фильму, у нас созданы 2 фильма таких о тех латышах, которые жили, там такие поселения, которые добровольно уехали после 17-го года. И у нас в университете в Риге одна научная работница со своими студентами едут туда и изучают, как он сохранился, этот язык, и встречается с теми оставшимися еще живыми людьми. Они там поют песни и всякие традиции рассказывают. Это очень интересные факты, которые мы по фильмам видим.
Donc moi je n'ai pas vu des villages pareils. Ah oui, pardon. Donc la question en français. Je viens d'une famille où le grand-père était un Polonais de l'Ukraine occidentale et la grand-mère venait de la même région que Silva, c'est-à-dire de la Latgalie en Lettonie. Et selon ma grand-mère, il y avait en Sibérie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, des villages entiers où on pratiquait toujours le letton tel qu'il avait existé encore avant l'annexion soviétique. Est-ce que quand vous avez voyagé en 82 en Sibérie, avez-vous vu des villages pareils. Et la réponse de Silva, c'est qu'elle connaît un peu cette histoire, mais elle n'a pas vu de village elle-même comme ça. C'est plutôt qu'elle sait qu'il y a des recherches qui se font, qui sont consacrées à cette histoire et qui se font en Lettonie, notamment qui portent sur les communautés lettones qui avaient quitté la Lettonie encore après 1917 et qui se sont installées à l'étranger et où on continue à pratiquer donc le letton d'avant tous les bouleversements. Et donc il y a des chercheurs qui vont là-bas, qui filment, qui enregistrent les chansons, etc., etc.
Но там остались многие латыши, которые с нами в одно время были сосланы, поскольку в семье, вот семья маминого брата, они были постарше дети, они вышли там замуж, женились с сибиряками и остались там жить, не вернулись на родину.
Mais en revanche, il y a beaucoup de gens, de Lettons, qui ont été déportés ensemble avec nous, au même moment que nous, et qui sont restés en Sibérie, comme par exemple dans la famille de mon oncle, quand il s'est retrouvé en déportation, ses enfants étaient plus grands que nous, et ils ont grandi là-bas, ils se sont mariés là-bas, et ils sont restés vivre là-bas.
Вот такая режиссер Гека уже 4 фильма сделала. Они едут, встречаются с этими латышами и привозят материал о их жизни там.
Il y a une réalisatrice, son nom est Gekka. Elle a déjà fait 4 films consacrés à ces Lettons et elle va là-bas en Sibérie, elle les filme et donc elle a fait déjà 4 films.
Silva Linarté, vous nous avez parlé de l'école, vous nous avez parlé de vos larmes, la mort de Staline, de la suspicion naissante à l'égard de votre famille. De quelle façon votre regard a-t-il changé lorsque vous êtes rentrée en Lettonie ? De quelle façon votre regard a-t-il changé à l'égard de Staline ? Comment, en quelque sorte, vous êtes-vous réapproprié votre histoire ?
Vous avez parlé à l'école, à comment vous avez été éduqués dans le soviétique, à comment vous avez... Менялся ваш взгляд и как вы как бы возвращали себе свою национальную историю?
Ну, если так честно сказать, я первые годы думала, ну тогда почему нас везли в Сибирь, когда их всех надо было везти в Сибирь?
Bon, pour vous dire honnêtement, mes premières années en Lettonie, je me posais la question, pourquoi est-ce que nous, on s'est retrouvés en Sibérie alors que c'est eux tous qu'il aurait fallu y envoyer?
И тогда, конечно, понемногу, с каждым годом, по различным ситуациям, разговорам, рассказам, я начала менять свои взгляды.
Et ce n'est que plus tard, petit à petit, d'une année à l'autre, j'ai commencé, en parlant avec les gens, en lisant, en réfléchissant, j'ai commencé petit à petit à changer mon regard.
И особенно, когда я съездила в Канаду, когда моя тетя рассказывала о моем отце.
Et c'est surtout aussi mon voyage au Canada a joué un rôle important, puisque je suis allée là-bas pour rencontrer ma tante, et elle m'a beaucoup parlé de mon père.
О том, какие они были патриоты, как они любили Латвию, как они работали, это все оказало очень большое влияние на меня.
Elle m'a beaucoup parlé de leur patriotisme, de leur amour pour la Lettonie, de leur travail qu'ils ont fait pour la Lettonie, et ça m'a beaucoup influencée.
C'est un peu la suite de la question. Vous avez mentionné votre voyage dans les archives où vous avez trouvé cette feuille où était écrit vous concernant trouvé lors de la deuxième déportation, si je me souviens bien. Et justement, est-ce que cette visite dans les archives, c'est la suite de cette réappropriation de sa propre histoire et ces archives-là personnelles de la déportation, à partir de quand elles ont été accessibles aux personnes individuelles elles-mêmes ? Est-ce que ça, juste après 91 ou plus tard ? Voilà.
Вы говорили о том, что вы были в архивах и видели свое дело, и видели mm-hmm. даже там листок, где было написано, что вот нашли. Mm-hmm. Да, и, не могли бы вы рассказать о том, как и когда вы смогли пойти в архивы, смогли познакомиться с этим делом, mm-hmm. как это происходило?
Mm-hmm. А после независимости, после 91-го года архивы стали доступными. Во-первых, мы получили все реабилитацию, получили документ, что мы, ну, свободные люди, и за нами не считаются никакие репрессии. И нам дали удостоверение, что мы репрессированные, и, конечно, небольшие льготы, за что я теперешнему государству очень благодарна, что я могу из своей сельской местности поехать в Ригу бесплатно на простом поезде.
Alors, à partir de 91, les archives sont devenues accessibles. En plus, on a eu tous des attestations comme quoi on était réhabilité. Et puis, par ailleurs, on a eu aussi des certificats de, d'anciens, des victimes des répressions. Ces certificats nous donnent, nous assurent certains privilèges, certaines, par exemple, le droit d'aller gratuitement à Riga en utilisant un train. Et ça, je l'utilise volontiers. Et je suis très contente et reconnaissante à l'égard du gouvernement actuel.
Et quand, maintenant, уже лет 7, наверное, тому назад, судили Фарптуха за репрессии в Латвии. И моя сестра была свидетелем на этом суде, и ей были доступны все документы, и она сделала копии, разрешили. У меня дома теперь все документы, и я узнала, что отцу был присужден смертный приговор.
Alors, et puis, il y a environ 7 ans, il y a eu un procès où on a jugé Fartour pour les crimes commis sur le territoire letton. Et ma sœur a été témoin lors de ce procès. Et c'est ainsi qu'elle a pu consulter les dossiers concernant notre famille. Et elle a demandé l'autorisation de les photocopier. C'est comme ça que j'ai chez moi des photocopies. Et j'ai appris notamment que mon père a été condamné à la peine capitale.
Поскольку не было официальной сужденности, не было суда, там в лагерях заставляли этих мужчин расписаться, что они боролись против советской власти, но они, если отказались это делать, их просто избивали, и моего отца.
Mais il n'y avait pas eu de véritable procès. Alors, ce qui se passait dans les camps, c'est qu'on obligeait ces gens, des hommes qui se sont retrouvés dans les camps, à signer un papier où ils reconnaissaient qu'ils avaient lutté contre le pouvoir soviétique. Et ceux qui refusaient de signer, on les tabassait.
И я встретила одного человека, который остался живым. Он сказал, что я был молодой, я очень хотел жить, и подписал, что он боролся против советской власти. И тогда ему дали право на лошади ездить по баракам и увозить умерших и в штабель, ну, как дрова складывать мертвые тела.
Et moi, j'ai rencontré après un homme qui était jeune à l'époque et qui a été dans les camps et qui m'a raconté qu'il avait très envie de vivre, de survivre. Alors, il a signé ce papier et après cela, on lui a donné une tâche particulière, attribué une tâche. Il devait, donc sur une charrette, aller d'un baraquement à l'autre et ramasser les cadavres pour ensuite les stocker dans un endroit.
Он выжил и в Сибири женился на немке, которая была сослана немцы по Волжье, и им Косыгин разрешил уехать в Германию.
Alors, il a survécu et ensuite il est resté en Sibérie. Il a épousé une fille d'origine allemande, donc il s'agissait des Allemands de la Volga, qui ont été autorisés par Косыгин à partir en Allemagne.
И он приезжал на праздник песен в Ригу и нашел меня. И он рассказывал, что мой папа умер до исполнения смертного приговора.
Et il est venu une fois à Riga, à la fête des chansons. Il m'a retrouvé et il m'a raconté que mon père était mort avant encore que, donc, avant d'être fusillé.
Папа занимался, состоял в такой организации «Саулес», это «Солнце» в переводе на русский язык, и они занимались культурной работой, спортом. А в его деле осужденности было написано, что он был в контрреволюционной организации.
Alors, mon père faisait partie d'une association qui s'appelait Saulis, ça veut dire soleil en letton. C'était une association qui menait des activités culturelles, sportives. Et alors, dans son dossier, on l'accusait d'avoir pratiqué des activités contre-révolutionnaires.
И эта организация католическая создала художественную школу Саулы, которой теперь моя дочь работает директором.
Et cette association, qui est une association catholique, a créé une école de beaux-arts, Saulé, où maintenant, que ma fille dirige actuellement.
Et этот человек, который жил в Германии, Лабинский, фамилия его, он мне рассказал, что когда он увозил из этих камер, из бараков этих умерших людей, их, пока, которые были живые, им заставляли, показывали 2 метра длиной яму выкапывать и ширину определенную. А они голодные, больные уже люди копали, копали, и все яма получалась уже и уже. Чем глубже, тем уже.
Alors cet homme qui vit aujourd'hui en Allemagne, il s'appelle Labinski, il m'a raconté que donc il devait sortir les cadavres des baraques et puis aussi ceux qui étaient vivants devaient creuser des tombes d'une longueur de 2 mètres et puis d'une largeur donnée. Mais comme c'était des gens très faibles, affamés, au fur et à mesure qu'ils creusaient, cette tombe devenait de plus en plus étroite.
И когда бросали трупы, они не заполняли эту яму, и потому просто ставили чурку рядом и обрубали руки, ноги, чтобы заполнить яму, поскольку эти больные люди, голодные, не успевали выкапывать яму столько, сколько умирали.
Et en fait, il s'agissait de fosses communes. Et pour remplir ces fosses au maximum, ils coupaient aussi les jambes et les bras pour remplir et pour avoir à creuser moins de fosses.
Oui, je voulais poser la question. Vous avez сказали, je parle français peut-être, oui. Donc vous nous avez raconté qu'une de vos tantes travaillait dans une école juive. Et je voulais savoir si la question juive ou ce qu'on appelle la question, le problème, le destin des juifs en Lettonie, c'est une chose que vous avez rencontrée ou croisée ou pas du tout.
Вот я бы хотела знать, как-то, когда сталкивались ли вы с тем, что называют еврейский вопрос или еврейская проблема, еврейская судьба в Латвии?
Ну, во всяком случае, об этом говорили все и знали о этой страшной трагедии этого народа. Это нам известно.
En tout cas, tout le monde parlait, tout le monde était au courant de cette tragédie.
Je voulais poser une question à Sylva Linarté. Sylva a témoigné de très nombreuses fois dans des émissions de documentaires, à la radio. Et le 14 juin, qui est la date de la première grande déportation du peuple letton, ainsi que dans les autres pays baltes, le 14 juin 1941, donc les 14 juin, souvent elle va dans les écoles, elle continue de témoigner. Je voulais, si elle pouvait nous dire quelles sont ses motivations, pourquoi elle continue à être toujours là, à témoigner.
Я знаю, что вы неоднократно давали интервью, рассказывали об этой истории, и в том числе, когда в Латвии 14 июня происходит коммеморация депортации, вы ходите обычно в школы, выступаете, встречаетесь с детьми. Я бы хотела узнать, что вами движет, когда вы это делаете. Почему вы продолжаете об этом рассказывать?
Во всяком случае, я не могу сказать, что особенно часто, но иногда, да, приглашают в местную школу на эту тему разговаривать. Я думаю, что все же молодежь должна знать свое прошлое, прошлое своего народа, поскольку оно коснулось не только латышей. Если задали вопрос о еврейском народе, мне нужно сказать, что с нами в тюрьме в Риге были и евреи, и две сестры. Я даже имя помню: Мира и Дора. Одна светлая была, вторая темная. Очень красивые девочки, и они переживали, очень переживали о том, что им не разрешили продолжить учиться в университете в Риге. И они вызвали начальника тюрьмы и просили, умоляли, чтобы им разрешили закончить университет. Но им сказали: поедете в Красноярский край, там в Ачинске есть педагогический институт, будете учиться. И так я часто о этих девочках думаю, какова их судьба, смогли ли они учиться и как, где они живут. Ничего, конечно, не знаем. Но одно нам стало ясно, когда я училась в Академии художеств, тогда у нас был такой всеми очень-очень любимый преподаватель Вулсон, Маурик Вулсон, и он преподавал научный коммунизм, и мы все-все посещали его лекции, никто не пропускал, если на живопись кто-то не пришел, а на лекцию Вулсона были 100% все. И он нам рассказывал многое, что не говорили в других школах. И он говорил, что до конца 60-х годов было запрещено принимать в учебное заведение, высшее учебное заведение бывших ссыльных, что документы нужно было принимать, а ставить такие оценки, чтобы они не поступили. И моя сестра закончила среднюю школу там, в Сибири, и очень хорошо училась, была отличницей, и поехала в этот же Ачинский институт, и ее не приняли. Мы не могли догадаться, почему она так хорошо училась, и она не поступила. Вся семья, все мы переживали за нее, а только в конце 60-х Волсон сказал, почему она не поступила.
Alors, je peux pas dire qu'on m'invite si souvent que ça à parler, mais quand ça arrive, je le fais parce que je pense qu'il faut que les enfants connaissent le passé de leur pays. Et puis aussi un passé qui ne concerne pas uniquement, ce n'est pas uniquement un passé letton, il y a aussi d'autres peuples. Là, vous avez évoqué les Juifs. Ça me fait penser à la rencontre que j'ai faite quand j'étais en prison à Riga. J'étais dans la même cellule avec deux jeunes filles juives. Je me souviens encore aujourd'hui comment elles s'appelaient, Mira et Dora. Elles étaient très tristes parce que cette arrestation a interrompu leurs études à l'université de Riga. Et elles voulaient beaucoup continuer, poursuivre ces études. Elles ont même se sont même adressés au directeur de prison en demandant de reprendre les études. Celui-ci leur a répondu qu'elles allaient être envoyées dans la région de Krasnoïarsk et que là-bas, à Achinsk, il y avait un institut pédagogique et qu'elles pourraient étudier là-bas. Je me demande toujours quel fut le destin de ces jeunes filles. Est-ce qu'elles ont pu continuer leurs études ou pas ? Et puis aussi, ça me fait penser à une autre histoire. Quand je faisais mes études à l'école de Beaux-Arts, on avait un prof qui s'appelait Volson. Il nous enseignait ce qu'on appelait le communisme scientifique et on aimait beaucoup ses cours. Parfois, ça nous arrivait de sécher un cours de peinture, mais pas celui de Volson, pas les cours de communisme scientifique. En fait, il nous racontait beaucoup de choses que d'autres profs taisaient. Et notamment, il nous a raconté que jusqu'à la fin des années 60, il existait une interdiction donc il y avait une consigne de ne pas accepter dans les universités, les instituts, les enfants des familles réprimées. Et alors, ça m'a permis de comprendre ce qui était arrivé à ma sœur, qui, elle, a eu son bac encore en Sibérie. Elle a fait très, très bien de très bonnes études. Elle était une très bonne élève. Et elle voulait, bien sûr, poursuivre dans une université. Elle est partie, justement, à Hatchinsk pour passer des examens et entrer à l'Institut pédagogique. Et elle n'a pas pu le faire. Et on était vraiment très surpris. On ne comprenait pas. Pourquoi ? Et maintenant, on sait pourquoi. Et en fait, donc, selon le professeur Volson, ce n'était pas une interdiction formelle, c'est-à-dire qu'on acceptait bien le dossier, mais ensuite, aux examens d'entrée, on faisait de sorte à que les candidats ne passent pas les examens.
Alors, moi, j'avais une question. Votre témoignage est désormais accessible sur le site Gulag Memories. Est-ce que vos enfants l'ont consulté et quel regard porte-t-elle sur ce témoignage? Merci.
Теперь ваш рассказ, с ним можно ознакомиться благодаря сайту виртуального музея ГУЛАГа. И мне было бы интересно узнать, ваши дети, они смотрели эти страницы, слушали ваш рассказ или нет?
Неделю тому назад из Риги мне позвонил внук и говорит: «Ома, ты знаешь, я нашел в интернете материал, твои фотографии и твоя мама». И он мне рассказывает, я думаю, как? Ну как мои фотографии, кому я давала, ничего не помню.
Alors, il y a une semaine, mon petit-fils qui habite à Riga, il m'a appelé, il m'a dit « Mamie, tu sais, j'ai trouvé sur Internet des choses sur toi, il y a tes photos, il y a beaucoup de choses ». Et moi, j'étais très surprise, je ne comprenais pas comment mes photos et mes matériaux pouvaient se retrouver sur Internet.
Это я сама не видела и до сих пор, но он меня очень удивил.
Alors, moi-même, je ne l'ai pas vu, mais il m'a beaucoup surpris en me racontant ça.
Так что мы, бабушки, отстаем от нашего младшего поколения, они все знают, а мы уже многое не знаем.
Nous, les grands-mères, on est un peu en retard sur nos petits-enfants, eux, ils savent beaucoup plus.
Скажите, пожалуйста, сколько лет было вашим дочерям, когда вы им рассказали об этом прошлом? И вообще рассказали ли вы им об этом? И если нет, то как они об этом узнали?
В советское время все жили какую-то двойную жизнь в Латвии. Одну дома, которую на кухне шепотом говорили, а вторую на улице, на работе, в школе.
À l'époque soviétique, en Lettonie, on menait tous une double vie. L'une se passait dans la famille, dans les cuisines, où on parlait, on chuchotait, mais on racontait des choses. Et puis, une toute autre vie se passait dans l'espace public.
Мои дети знали. И только уже в начале независимости, в 92-м году, мы на кладбище сделали такое памятное захоронение, которого нет, чтобы у нас традиция дни умерших отмечать, и чтобы было место, где положить цветы, и дети знали.
Alors, mes enfants, ils savaient. Mais ce n'est qu'en 92, après l'indépendance, qu'on a fait, dans notre cimetière familial, on a fait une sorte de tombe symbolique, qui est vide, sur laquelle on peut se recueillir et mettre des fleurs, notamment les jours qui sont très commémorés chez nous, donc les jours des morts.
J'avais une tout à fait autre question. Vous parliez de votre scolarité russe et puis lettonne. Est-ce que ça a créé un désarroi chez vous de passer de l'une à l'autre, et comment les professeurs russes vous recevaient venant de votre exil, enfin, voilà.
Вы рассказывали о том, что вы учились и на, как бы в латышской, в латышских учебных заведениях, и в русских. И вот скажите, этот переход от одной школы к другой, как это проходило, плавно или было трудно? И как ваши преподаватели относились к такому опыту, который у вас уже был, совсем другому?
Во всяком случае, я могу сказать то, что в Сибири в то время учителей присылали как обязанность после учебного заведения 3 года отрабатывать. И у нас были педагоги из Москвы, из Ленинграда, и я просто вспоминаю, ну, самым-самым лучшим образом тех педагогов, которые всегда ставили нас образцом. Они говорили, почему она латышка правильнее разговаривает по-русски, чем вы. А там был местный акцент, и они читали стихотворение «Клюете, бросаете, смотрите в окно, как будто со мной задумал одно» и так далее. Она всегда говорила, эти дети опрятные, аккуратные, хорошо учатся. И всегда нас ставили в образец, и у меня, ну, самые наилучшие воспоминания о учителях в русских школах там, в Сибири. А в Латвии опять спокойно переходили.
Donc, il faut préciser que nos instituteurs en Sibérie, c'était souvent des gens envoyés de Moscou, de Leningrad, parce qu'à l'époque soviétique, il y avait l'obligation, une fois qu'on terminait une université, on était obligé de travailler pendant 3 ans là où on envoyait ces diplômés. Donc ces gens venaient de l'extérieur et j'ai gardé de très très bons souvenirs de tous ces instituteurs et souvent, ils nous donnaient en exemple à d'autres enfants, aux enfants locaux, ils disaient mais regardez ces enfants lettons, comment ils parlent bien russe. C'est pas comme vous qui avez un accent, qui parlez plutôt un dialecte. Ou encore, ils disaient, mais regardez ce qu'ils sont bien habillés, ils sont propres, ils se comportent bien. Et donc, je garde de très bons souvenirs des instituteurs russes. Et puis, quand je suis passée à l'école lettonne, bah, ça s'est fait de façon assez naturelle.
Но в основном так получилось, что я дольше училась в русских учебных заведениях, чем в латышских. И основная память о том времени, хочу сказать то, что не было электричества, не было керосина, и что мы так старались. Я просто ночью маму будила, если не знала какое-то слово, чтобы она мне перевела, сказала. И при лунном свете, когда светлая-светлая луна, я заучивала стихотворение, поскольку на экзаменах в русских школах сколько билетов, столько стихотворений нужно было знать наизусть.
И, donc, il faut dire que j'ai quand même passé beaucoup plus d'années dans les écoles russes que dans les écoles lettonnes. Et on étudiait dans des conditions matérielles très précaires. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de fuel, il n'y avait rien. Et ça m'arrivait, par exemple, la nuit de me lever pour profiter de la lune, quand la lune était pleine et qu'il y avait de la lumière, de me lever pour apprendre par cœur des poésies, puisque à l'examen, on avait plusieurs choix. On tirait un petit billet où il y avait... et à chaque choix correspondait un poème à réciter.
Когда я поступала в Академию художеств, тогда Вулфсон принимал экзамен по истории, и он меня тоже похвалил, что я на русском сдавала экзамены, конечно, у меня не было терминологии латышской, я все экзамены сдавала, мне разрешили на русском языке сочинения, истории, все сдавала. И он так удивился, что у меня латышская фамилия, а я на русском свободно по истории отвечаю.
Alors, quand j'ai passé des examens d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai passé tous mes examens en russe. Ils ont fait exception, ils m'ont autorisé à faire cela. C'était notamment, j'ai passé un examen d'histoire devant ce professeur Volson, que j'ai déjà évoqué. Il a été très étonné de voir une fille qui portait un nom letton de répondre dans un en utilisant un très bon russe, et il m'a donné aussi un exemple.
Et то, что моя молодость и мое детство прошло там, и я теперь частенько, когда одна дома, включаю радио на русском, слушаю русские песни, это песни моей молодости. Мои дети смотрят на меня с удивлением и не понимают, что с мамой, почему мне это нужно, а мне оно нужно. Да, это мое, мое время, моя молодость, и я с большим удовольствием. А теперь уже девочки мои понимают, и мне подарили записи русских песен, когда я одна дома, и я занимаюсь живописью и слушаю русские песни.
Alors, il faut comprendre que quand même mon enfance, ma jeunesse sont passées là-bas, en Russie, dans la langue russe. Et il m'arrive aujourd'hui d'allumer la radio et de la mettre sur... donc d'écouter la radio russe et d'écouter des chansons de cette époque, des chansons russes de l'époque de ma jeunesse. Au début, mes enfants ne comprenaient pas. Et puis finalement, mes filles ont compris. Ils m'ont même offert un disque avec donc des chansons de cette époque en russe. Et je l'écoute notamment quand je peins.
Nous allons bientôt nous quitter, donc si vous avez encore une ou deux questions à poser à Silva, c'est maintenant. Donc je vous remercie infiniment de votre présence. La rencontre se continue puisque je remercie également Chloé Pathé, notre éditrice des éditions Autrement, qui est dans la salle. Le livre vous est présenté à la sortie de cet amphi. Sylvain Linarté est ici et je pense qu'elle sera très heureuse de vous le dédicacer. Je tiens à remercier l'accueil de la Boulac. C'est l'action, donc le service d'action culturelle qui nous accueille aujourd'hui. C'est une journée d'études donc, qui était organisée en partenariat avec la Boulac, le CERSEC bien sûr, et RFI. Merci encore. Vous savez que nous pouvons nous retrouver dans le hall et puis je vous invite à découvrir le musée virtuel du Goulac. Sylvain, regardez-vous. Et la journée n'est pas terminée puisque à 19h, et Hélène Châtelain est parmi nous. Elle a pris la parole tout à l'heure plusieurs fois. Nous avons la chance de sa présence et de la présentation de son film Goulag. C'est ici à 19h en sa présence. Donc revenez-nous vite pour cette nouvelle rencontre et cette belle soirée en sa compagnie. Merci.